France Culture.
Bonjour le Book Club, j'ai lu La Graine de Jacqueline Manicol et ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre, c'est la place du corps. Le corps des femmes, leur douleur, la maternité, tout ce qui se vit dans la chair. En plus, je trouve que Jacqueline Manicol en parle avec une telle franchise que ça en devient saisissant. En lisant, j'ai eu l'impression qu'elle mettait des mots sur quelque chose qu'on a longtemps préféré taire.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Jacqueline Manicol est née en 1935 au Moule, en Guadeloupe, et elle se donne la mort en 1976 à Massy, à 41 ans, en laissant ces mots « J'en ai assez d'être femme, noire, pauvre, de me battre autant pour une vie qui n'en vaut pas la peine ». Entre-temps, elle exerce avec passion, courage, endurance, le métier de sage-femme et accompagne des milliers de femmes dans le moment de l'accouchement. Depuis ce qu'elle juge un trop de naissances non désirées, elle conforte son idée de prioriser la contraception et le droit à l'IVG pour des grossesses choisies. Son livre « La graine », journal d'une sage-femme, paraît en 1974. Elle y décrit de l'intérieur le paternalisme médical, le racisme, le colorisme, les conditions éreintantes du métier, mais aussi les conditions de vie des femmes dans les années 1960-1970. Le texte reparaît aux éditions Gallimard dans la collection « L'Imaginaire ». C'est un document littéraire essentiel par les temps qui courent. On l'évoque aujourd'hui, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Hélène Frouard.
Bonjour.
Vous êtes historienne, journaliste, vous intéressez beaucoup au savoir scientifique. Bienvenue dans le Book Club. Votre livre Jacqueline Manicol, La Révoltée, apparaît aux éditions de l'Atelier. C'est vraiment un plaidoyer biographique pour la réinscription du parcours de Jacqueline Manicol dans une mémoire collective qui l'a effacée comme bien d'autres femmes, et notamment les femmes non blanches. Le livre a reçu le prix Pandore 2025. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de La Graine. Bonjour Nina Hatt.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, réalisatrice, vous êtes aussi la petite fille de Jacqueline Manicol. Vous avez contribué justement à tout ce travail de réinscription mémorielle de son travail, de son militantisme, de son savoir, mais aussi de son œuvre littéraire. À travers la réalisation d'un podcast génial dont je conseille l'écriture en plus l'écoute en plus de l'émission d'aujourd'hui. On mettra le lien sur la page du Book Club. Bienvenue dans le Book Club.
Merci.
On est ravis de vous recevoir toutes les deux. Peut-être donc avant que nous entrions dans ce texte littéraire, La Graine, qui est préfacée par Chloé Carman à la collection L'Imaginaire de Gallimard, faire un point biographique, notamment en nous appuyant sur le travail historique que vous avez fait, en relation avec les archives familiales, si j'ai bien compris, de Nina Hatt et de votre maman. Qu'est-ce qu'on peut dire d'important pour commencer à faire connaissance avec Jacqueline Manicol avant d'entrer dans ce livre, La Graine ? Par quoi on commence ?
Bah c'est dur de commencer parce que c'est une femme aux multiples facettes, mais disons que c'est son parcours entier qui est intéressant, et La Graine, c'est très bien que ce soit réédité, mais ça s'inscrit dans un parcours de militante et dont la vie elle-même a été œuvre militante, puisqu'elle est née dans cette famille de Guadeloupe, famille dont les parents n'étaient pas allés à l'école dans les campagnes de Guadeloupe, et puis qu'elle va au prix d'un énorme travail et d'une très grande intelligence, être à la fois sage-femme, vous l'avez dit, être à la fois militante féministe, se battre pour l'avortement, pratiquer des avortements clandestins et aussi être romancière. Donc c'est un parcours vraiment très important. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, dans ce mouvement féministe de la seconde vague auquel elle participe à Paris, c'est une des rares femmes non blanches, en tout cas qu'on connaisse. Et à ce titre-là, c'est important aussi, je crois, de parler d'elle, parce que ces figures ont beaucoup été oubliées dans l'histoire du féminisme.
Alors dans le podcast dont je conseille l'écriture, vous racontez comment vous-même, en tant qu'historienne, vous tombez en fait sur le nom de Jacqueline Manicol, notamment en vous intéressant au planning familial qu'elle participe à cofonder en 1964 à Pointe-à-Pitre. Ça veut dire que des figures militantes, sachantes, exerçantes, non blanches, sont rares dans l'écriture de cette histoire féministe ?
Alors elles sont pas rares en réalité, mais on les connaît pas, on les redécouvre. Il y a beaucoup de travaux depuis quelques années qui font ressurgir à la surface, notamment ces femmes antillaises, celles auxquelles je me suis intéressée. Donc ces militantes féministes antillaises. Pour vous donner juste un exemple, j'ai découvert moi-même que dès le début du XXe siècle, il y a des Guadeloupéennes qui se battent pour le droit de vote des femmes. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et grâce aux travaux récents, on commence à redécouvrir ce mouvement qui est très actif, très important jusqu'à aujourd'hui.
Nina Hatt, lorsque ce renouveau mémoriel se fait autour de votre grand-mère, Jacqueline Manicol, vous l'attendez, vous êtes surprise, vous avez préparé avec votre mère les archives adéquates. Comment ça se passe, vous, dans votre parcours aussi intellectuel, quoi ?
En effet, grosse surprise quand Hélène vient toquer à la porte il y a maintenant 3 ans, si je ne me trompe pas, pour commencer ce travail de recherche qu'elle fait d'abord pour un article qui mènera ensuite à la biographie qu'Hélène écrit, qui mènera ensuite au podcast qu'on a fait ensemble. Et en effet, c'est une histoire, nous, qu'on partage dans la famille depuis toujours, mais qu'on a un peu tue quand même. On a quelques photos, on a quelques extraits d'articles, on a évidemment ces 2 livres qu'elle a écrits. Mais ce n'est pas quelque chose dont on parle énormément. Notre grand-père, donc son 2e mari, nous en a très peu parlé. Et c'est à l'occasion de son décès qu'on redécouvre justement toutes ces archives familiales. On en avait un peu, évidemment.
Du décès du grand-père.
Oui, exactement. Ouais. C'est quand mon grand-père décède, Monsieur Le Tourneur, donc 2e mari de Jacqueline, qu'on redécouvre voilà, tout un carton qu'il avait mis de côté depuis toutes ces années et dont il ne nous avait jamais parlé. Donc là, vraiment, c'est la boîte de Pandore. On découvre des choses exceptionnelles, des carnets, des manuscrits, un manuscrit non publié, les différents manuscrits qui ont mené à l'écriture de ces 2 livres, qui ont été beaucoup modifiés, mais également des photos et surtout énormément de Super 8 qu'on a réussi à numériser grâce à une asso. Il y a beaucoup de vie de famille, beaucoup de vie personnelle, des vacances en Albanie, des vacances en Turquie, en Guadeloupe, en Bretagne, sur la Côte d'Azur, un petit peu de moments de vie quotidienne aussi. Et là, on estime, avec mon frère qui m'aide beaucoup dans ce travail d'archives, on estime qu'on a numérisé à peu près 1/3 seulement de ces archives-là. Donc, il en reste beaucoup à découvrir. Et c'est ce à quoi on va s'atteler dans les prochains mois.
Il y a aussi une part de la correspondance qu'elle entretient avec différentes personnes que vous découvrez ou redécouvrez à cette occasion-là. Est-ce que ça vous permet, Nina Hatt, de la placer dans un certain milieu militant intellectuel de l'époque ?
En effet, c'est aussi grâce au travail de Marine Rouche, qui est historienne et qui a beaucoup travaillé sur les correspondances de Simone de Beauvoir, qui a pu remettre un peu ces lettres dans notre présent, dans notre époque contemporaine. Et surtout, on a pu donc retracer les échanges que Jacqueline avait envoyés à Simone et que Simone avait envoyés à Jacqueline. On avait donc les deux côtés de ces lettres-là. Et en effet, ça nous permet de la remettre dans son histoire, dans ce qui s'est passé, des pans d'histoire qu'on ne connaissait très peu finalement, à part notre histoire familiale et notre mythe familial qu'on avait construit. Donc c'est vrai que ça la replace un peu véritablement.
Et vous pensez à quelle époque dans la chronologie de son parcours, par exemple ?
Ça va être les échanges, par exemple, qu'elle avait avec Simone de Beauvoir à partir des années 67, Hélène, si je ne me trompe pas, jusqu'à à peu près les années 75, hein, où elles vont pouvoir correspondre. C'est comme ça que Jacqueline aussi reprend l'écriture de son livre et c'est comme ça qu'elle est remotivée par l'écriture de son livre, qu'elle est aidée par Simone de Beauvoir. Et voilà, oui, c'est vrai que toute cette correspondance était hyper précieuse et que mon grand-père avait finalement hyper bien archivée dans des petits papiers, dans des petits trucs. Et donc, c'est fou de retomber sur tout ça, en effet. Oui.
Alors, c'est intéressant que vous évoquiez Simone de Beauvoir et la place qu'a pris l'écriture dans le parcours de Jacqueline Manicom. C'est vrai que nous, on fait cette émission ici au Book Club en raison de la reparution de ce texte La Graine qui paraît en 1974. Comment ça intervient dans son parcours, l'écriture, l'élan d'une écriture qui est véritablement un geste purement littéraire? On l'a, on le lit, on se rend compte qu'il y a un vrai travail de ce côté-là.
Oui, je trouve que c'est très intéressant. Donc, il faut voir d'où vient Jacqueline Manicom. Mmh. Hein, 2 parents qui sont jamais allés à l'école, un père analphabète et elle qui va faire des études, ce qui est jusqu'en terminale, ce qui est assez exceptionnel pour une fille d'origine.
Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'elle est l'aînée d'une famille de 20 enfants, dont 10 meurent. On y viendra tout à l'heure, mais il y a quelque chose aussi dans ce vécu de cette famille très nombreuse, probablement trop nombreuse au vu des grossesses, certaines subies par sa propre mère, qui joue sur son parcours et qui, du coup, la prédestine pas à intégrer un milieu intellectuel et littéraire.
Exactement. Quoi. Donc, il faut voir cette petite fille indo-guadeloupéenne des campagnes qui finit par devenir autrice et le moment fondateur de tout ça. Donc, c'était quelqu'un qui a très vite aimé lire, qui l'a toujours dit, qui était très cultivé. Et le moment fondateur, c'est qu'elle vit une expérience, une confrontation au racisme extrêmement violente lorsqu'elle arrive à Paris, comme jeune sage-femme, et qui la pousse à faire une première tentative de suicide. Et elle raconte elle-même qu'elle va s'en remettre en découvrant l'œuvre de Simone de Beauvoir, notamment La force de l'âge, et que ce livre a changé sa vie, et notamment lui a donné envie d'écrire. Et à ce moment-là, elle se met à écrire, elle dit comme je buvais des verres et des verres de rhum blanc, c'est-à-dire dans une sorte de frénésie d'écriture, une écriture vraiment vitale, parce que cette écriture lui permet de mettre à distance l'expérience humiliante qu'elle vient de traverser, donc de se réapproprier autrement son histoire. C'est comme ça qu'elle se met à écrire et c'est comme ça qu'au fil des années, au bout de très longtemps, ce premier roman, elle a écrit un premier roman avant La Graine qui s'appelle Mon examen de blanc, qui part en 1972, c'est comme ça que ce livre va être conçu en plusieurs étapes, alors des manuscrits qui vont beaucoup évoluer, qui va être réécrit avec l'aide de Simone de Beauvoir qui l'encourage à essayer de le faire publier. C'est très difficile, c'est un long chemin. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'elle rentre en littérature, en quelque sorte.
Mais en ayant à la fois conscience et foi dans ce geste d'écriture qui va participer à ce que, par ailleurs, elle essaye de mener, c'est-à-dire un combat émancipateur pour elle et pour les femmes en général. Elle se dit que écrire, ça participe du même geste.
Je pense que pour Jacqueline Manicom, mais c'est vrai, comme beaucoup de féministes de l'époque, écrire, c'est une arme. Parce qu'avant de combattre pour quelque chose, il faut d'abord le faire voir, le désigner. Et Jacqueline Manicom est quelqu'un qui a toujours eu un franc-parler, une parole très libre. Et ses deux livres sont quasiment autobiographiques à chaque fois. Et c'est vraiment l'idée que c'est en disant les choses, en les faisant voir, qu'on les fait comprendre, ce qui n'a pas toujours marché, en tout cas pour la part qui concerne le racisme, a peut-être été moins entendue. Mais en tout cas, oui, c'est une écriture qu'on pourrait dire de combat.
Quelle est la réception de ce texte en 1974 ?
La graine ?
Ouais.
Alors, il est extrêmement bien reçu, dans le milieu féministe et au-delà, tellement bien reçu qu'il fait l'objet assez rapidement de rééditions, puis d'une réédition en livre de poche. Et Jacqueline Manicom devient une femme assez connue. Elle est interrogée, elle est invitée à la radio, elle est invitée dans Radioscopie, Jacques Chancel, ce qui n'est pas rien. Donc ça lui apporte une très profonde, une très importante notoriété, même si ensuite, après sa mort, le livre va être oublié.
Et il reparaît donc grâce à ce travail de fond, on peut le redire encore une fois, que fait la collection L'Imaginaire et Margot Gallimard pour les éditions Gallimard. Vous disiez tout à l'heure, Nina Hatt, on avait bâti une mythologie familiale, personnelle, autour de cette grand-mère, Jacqueline Manicom. Quelle place tenaient les textes qu'elle avait écrits dans ce récit ? C'était important qu'elle ait écrit pour vous ?
C'est vrai que j'ai mis du temps à les lire, j'ai mis du temps à les découvrir, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un petit blocage sur ces deux romans, peut-être que je les trouvais peut-être dans mon imaginaire trop compliqués ou que je n'étais pas prête. Je les ai lus qu'à mes 19-20 ans, alors que j'ai toujours été une grande lectrice. Et ça avait une place, mais ça avait plutôt une place dans la bibliothèque, à vrai dire, que pour moi. Ma mère les a toujours lus, évidemment.
Votre mère les a toujours lus, elle était jeune quand sa propre mère se donne la mort ?
Elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans, mon oncle en avait 15-16. Très jeune, donc évidemment très compliqué. Elle les a découverts bien plus tard, évidemment. Mais oui, c'est des livres que ma mère a toujours eu dans sa bibliothèque, qu'elle a toujours consulté. Je sais qu'elle les relit régulièrement. Mais pour moi, c'est vrai que ça a été une découverte tardive. J'ai commencé par celui qui, je pense, est le plus simple, La Graine. Et ça m'a vraiment marquée, choquée. Ce monde médical que je connais très peu, ce monde hospitalier qu'on connaît peu, avec ces violences un peu verbales, un peu la dureté du quotidien des soignants, c'est vrai que c'était très marquant. Et je regrette de ne pas les avoir lus plus tôt, ça aurait pu m'apprendre plein de choses. C'est ensuite que j'ai lu Mon examen de blanc, qui est un côté encore plus personnel et plus sur la question raciale.
Vous parliez d'une manière d'avoir un peu silencié aussi cette figure-là, c'est-à-dire qu'à la fois c'était une mythologie personnelle et en même temps on ne parlait pas trop de Jacqueline Manicom jusqu'à la mort de son deuxième époux. Est-ce que on va discuter de l'enjeu historique, de l'enjeu de l'écriture de l'histoire, de la silenciation et de la disparition des figures féminines 1 mais non blanches 2? Je pense que c'est un sujet très important pour comprendre le sort réservé à ce texte-là, La Graine. Mais pour ce qui est de votre famille, est-ce que le fait qu'elle se soit suicidée, ça participait de ce silence-là, Nina Hatt?
En effet, je pense que ça a été un tabou. Ça a été quelque chose de très compliqué à vivre pour ma mère, vous doutez bien, qui était très jeune, pour mon oncle qui est plutôt taiseux de nature, même s'il souffre de plus en plus et il nous partage de plus en plus de souvenirs, on en est très content. Mais oui, en effet, je pense que son suicide a été quelque chose de très tabou, d'autant avec son éducation catholique. J'imagine que c'était pas très bien reçu. Et même à l'époque, j'imagine que la question du suicide en 76 était quelque chose peut-être dont on parlait assez peu. Il y a même assez peu de nécrologie, hein, alors qu'on commençait à parler d'elle dans les médias, qu'elle avait une place médiatique, comme on l'a dit juste avant. Donc, en effet, je pense que cette question du suicide a été un peu silencée, d'autant que ma mère n'a pas su tout de suite que ça a été un suicide, qu'elle l'a appris quelques années plus tard. Donc, j'imagine que ce secret familial a aussi participé à cet effacement.
Et si je peux ajouter juste, quand j'ai commencé mes recherches, je ne savais pas que c'était un suicide, puisque selon les sources, certains disaient que c'était un accident de voiture, certains suicides. C'est pour dire que le tabou a marqué longuement cette mémoire.
On mentionne que Gisèle Halimi lui rend hommage après sa mort en parlant d'elle comme une des militantes les plus ferventes du mouvement. Donc c'est toujours très intéressant et en même temps vertigineux de imaginer la place qu'ont pu occuper certaines personnes et la très 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 toute petite place dans les traces, dans les archives, dans l'écriture de l'histoire qu'elles ont ensuite. Pour l'historienne que vous êtes, je veux dire, il y a un contraste fou, non ?
Oui, oui, bah c'est ce qu'on appelle l'invisibilisation, qui n'est pas du tout, c'est pas que quelqu'un décide
bien
de
sûr.
Taire, c'est que c'est un mécanisme plus large. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le mouvement féministe très actif, hein, quand il commence à écrire son histoire, c'est-à-dire pas tout de suite, sur le moment on est dans le combat, donc on n'est pas en train d'écrire son histoire, mais quand l'histoire se met à être écrite, elle va retenir surtout d'abord les femmes encore vivantes, et puis les femmes les plus connues, les actrices, les journalistes, les intellectuels, les avocates, et puis un peu oublier le reste du mouvement, et ça fait quelques années qu'on redécouvre, je trouve ça très intéressant, ce milieu militant. Notamment, il y a eu des travaux sur ces militantes de milieux populaires venues de petites villes. On avait oublié que c'était ça aussi, le combat féministe des années 70. Et puis, à travers la figure de Jacqueline Manicom, il y en aura peut-être d'autres, hein, justement, ces militantes de ce mouvement féministe de la seconde vague, qui peuvent venir d'ailleurs, qui peuvent ne pas être blanches. Donc c'est, voilà, c'est en train d'être découvert. C'est une nouvelle phase de cette historiographie que je trouve importante, parce que ça enrichit l'image qu'on a de ce féminisme.
Alors, il n'en est pas ou très peu question, en fait, de cette inscription politique dans la graine. Peut-être on peut mentionner le fait que elle témoigne au procès de Bobigny. Pourquoi ? Comment est-ce qu'elle en vient à témoigner à ce procès-là ? Ce qui fait aussi, quand même, sur un parcours de militant féministe à ce moment-là, fait date. Et peut-être un mot aussi sur le fait qu'on est passé rapidement. En 1964, elle crée le premier planning familial à Pointe-à-Pitre. De même, il n'en est pas question dans la graine, donc puisqu'on fait une sorte de petite notice biographique pour commencer l'émission, ces deux points-là.
Alors, en fait, son engagement dans le féminisme, il remonte à la fois aux 20 grossesses de sa mère, à sa propre grossesse non planifiée dans sa jeunesse, et puis aux femmes qu'elle voit à l'hôpital. Donc très vite, elle comprend que le poids de la grossesse, c'est ce qui empêche l'émancipation féminine, et elle découvre l'arrivée des premiers contraception et le premier planning familial ouvert en Grenoble en 61, et donc tout de suite, ça va être son combat. Son combat, c'est que les femmes doivent maîtriser leur fécondité pour s'émanciper. Donc elle va se battre en 64 avec d'autres militants progressistes de Guadeloupe pour ouvrir un planning familial, donc un peu avant l'autorisation de la contraception qui aura lieu en 67. Et puis, elle va rentrer ensuite avec son deuxième mari en région parisienne, recommencer à travailler en région parisienne. Et là, en fait, elle rentre en contact avec Simone de Beauvoir, on l'a dit, par rapport à ses projets d'écriture. Mais Simone de Beauvoir va la mettre elle-même en contact avec l'association Choisir, qui est la grande association de Gisèle Halimi, notamment, qui va se mobiliser pour le combat pour l'avortement et qui va regrouper, en fait, toutes ces féministes qui se battent pour l'avortement. Donc c'est comme ça qu'elle va rentrer en contact avec Gisèle Halimi et puis proposer d'être témoin au procès de Bobigny, puisque Gisèle Halimi a décidé d'en faire une plateforme pour faire connaître la question de l'avortement et la mettre sur la place publique. Ça commençait déjà à être discuté, mais là elle veut vraiment en faire un procès public. Et au sein de l'association, lors d'Assemblée Générale, il y a des débats autour de la façon dont va se construire ce procès. Et Jacqueline Manicom, qui est sage-femme, propose de témoigner, ce qui est assez atypique puisque tous les autres témoins choisis sont plutôt des figures connues, puisque Gisèle Halimi voulait avoir la caution de personnes connues, soit des femmes comme Simone de Beauvoir, ou des prix Nobel de la paix, ou des médecins connus. Et Jacqueline Manicom, elle apporte un autre témoignage, qui est celui d'une femme alors pas du tout connue, mais qui peut raconter de façon très crue d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire en vrai un avortement clandestin. Donc c'est le rôle qu'elle joue au procès de Bobigny, et on sait par la transcription des débats que son témoignage a beaucoup impressionné, puisqu'on sait qu'une fois qu'elle se tait, il y a un silence dans la salle, tellement les gens sont sidérés par ce qu'elle vient de raconter.
Et c'est vraiment ce qui se passe aussi dans la graine, c'est qu'elle a une possibilité par son acuité, aussi par sa précision littéraire, peut-être par son audace aussi d'écriture, de rendre concrètement ce que c'est qu'un utérus fissuré, ce que c'est qu'une serviette hygiénique avec des pertes de sang ou avec le reste d'un embryon, etc., etc. C'est-à-dire c'est comme si elle ne reculait, on a l'impression, devant rien, aucun des détails de l'obstétrique, de la gynécologie, des violences obstétricales, du corps parturient. Enfin, il y a vraiment, vous disiez tout à l'heure, Nina Hatt, j'aurais presque aimé lire ce livre avant, mais pour moi, en tant que femme, mais c'est vrai que c'est un document, je le disais encore, il date de 74 et on le lit aujourd'hui et il a encore une très grande radicalité à mon sens. Oui, Marie.
Oui, en effet, Marie. En effet, mais c'est vrai que même tous ces combats sont encore d'actualité. Absolument tous, les violences obstétriques, le confort de la mère aussi, l'accouchement, le confort du bébé lors de l'accouchement. Voilà toutes les questions de contraception, d'accès à l'avortement, d'éducation sexuelle. C'est quelque chose qui l'a beaucoup fait vibrer, si je puis dire, à la fin de sa vie, qui lui tenait beaucoup à cœur. Elle a d'ailleurs fini sa carrière en faisant des cours d'éducation sexuelle. Donc c'est vrai que tous les thèmes qu'elle aborde sont encore d'actualité. Je ne sais pas ce qu'elle en pensera aujourd'hui, mais ce serait sûrement un peu décevant pour elle. Mais c'est vrai que ses combats continuent et donc ce livre est toujours très lisible aujourd'hui. Et je comprends qu'il soit réédité et on en est évidemment ravis.
Et on va y venir précisément à ce livre qui s'appelle « La graine » et qui reparaît aux éditions Gallimard juste après ça.
Les matins se suivent et se ressemblent. Aujourd'hui est un nouveau jour. Ou peut-être que c'est la fin. La chanson résonne encore. Résonne à ça, elle se prémunit. Toi et tu dis la route.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La graine, journal d'une sage-femme de Jacqueline Manicomme, aujourd'hui dans votre Book Club, édité en 1974 et réédité aux éditions Gallimard. L'autrice qui fonde en 1964 le premier planning familial de Guadeloupe, prônant une maternité consciente auprès de militants et militants progressistes, dont certains médecins. Féministe, on l'a dit, consciente des enjeux raciaux en métropole comme en outre-mer. Elle décrit dans ce texte de l'intérieur le paternalisme médical, le racisme, les conditions d'exercice du métier de sage-femme, mais aussi plus généralement la condition féminine, notamment dans les maternités parisiennes des années 1960-1970. Elle s'empare de l'écriture comme d'un moyen de pensée et de lutte. On parle de ce texte avec vous, Hélène Frouard et Nina Hatt. La graine faisant évidemment référence à la semence masculine, mais aussi à la graine du savoir, cette graine qu'on plante, qu'on peut regarder pousser. Une graine du savoir essentielle à l'émancipation. On commence avec un premier extrait de ce texte.
Manon Loulouse était chasse-femme. Il ne se passait pas de jour qu'elle ne fît des kilomètres à la ronde pour assister et délivrer les femmes des alentours de Vieux-Bourg Mornalo. Toutes faisaient appel à son savoir. Les négresses les plus noires, les négresses rouges, les chabines, les femmes malabar, et même les pauvres blanches Matignon, pourtant beaucoup plus éloignées. Elle possédait la science des matrices, ce qui lui donnait le pouvoir de tourner un enfant mal placé, tout comme d'administrer un mystérieux breuvage à base de feuilles de dragon, d'écorce d'ananas ou de bois cannelle qui servait à couler une grossesse non souhaitée. Ses pieds noirs, brûlés par les blancs chemins calcaires, ne se posaient pas sur la route banalement. Ses orteils s'accrochaient, agrippaient le sol et la menaient, vive et alerte, dans sa robe de matador créole vers les cases des habitations. Sur son madras à carreaux qui enveloppait la laine grisonnante de ses cheveux, elle posait une valise usée au précieux contenu obstétrical. Une paire de ciseaux, une bouteille d'huile de carapate, des citrons verts et toutes sortes d'herbes destinées à la préparation des bains des marais.
Je considère que mon métier m'a appris à vivre, que il continuera encore à m'apprendre à vivre et que je peux encore apporter des choses aux gens que je rencontre maintenant parce que j'ai eu une certaine expérience. Mais la philosophie, si je peux appeler ça philosophie, c'est ce qu'il y a de finalement de plus merveilleux, c'est ça, c'est la naissance, c'est la vie. Lorsque, moi je souhaiterais que tout cela soit vécu avec bonheur partout, vous voyez, dès le départ, dans l'acte sexuel par exemple. Puis le jour où on dira, le mois prochain on fera un enfant, ou la semaine prochaine on fera un enfant, puis qu'on le fera ce jour-là dans la grande joie, et puis qu'on l'attendra dans la joie, et puis qu'on le mettra au monde dans la joie, et qu'on l'élèvera dans la joie. Alors là je me dirais, si je peux apporter une toute petite goutte, mais même pas une goutte, un atome de ce que mon expérience de sage-femme m'a donné, eh bien si je peux à cette cause-là, si je peux à cet acte-là apporter, vous voyez, cette toute petite graine, eh bien, je pense que j'aurais, comme les hindous disent, j'aurais planté un arbre dans la vie. Vous voyez, j'aurais pas été inutile, complètement inutile sur la terre.
Cette archive, elle est parfaite. Vous mentionniez le fait qu'elle est interviewée, en effet, par Jacques Chancel dans Radioscopie. Et juste avant, c'était un extrait de son livre La Graine. Et elle réutilise ce mot-là. Si je peux planter une toute petite graine et, comme disent les hindous, voir pousser quelque chose. Il me semble qu'elle, finalement, dans une seule phrase, elle dit beaucoup de choses. Déjà, son ascendance indo-guadeloupéenne. Et puis, l'idée d'une migration des savoirs. Dans le passage qu'on vient d'entendre, lu par Cyril Marchand, elle convoque Manon Loulouse. Et c'est vraiment une figure de femme qui exerce ce métier de chasse-femme et qui fait déjà, en Guadeloupe, tout ce qu'elle, ensuite, elle va faire autrement dans les maternités aseptisées et speedées de la région parisienne où elle va travailler. Parce qu'on a peu parlé de la structure pour l'instant, mais c'est un livre qui se base sur des récits de gardes in vivo, 16 gardes, mais à l'intérieur de quoi s'inscrivent des vignettes d'un avant ailleurs. Pourquoi c'est important, Nina Hatt, Hélène Frouard?
Je pense qu'il y a deux raisons. Donc effectivement, ce récit de ces gardes de sage-femme est entrecoupé par des développements sur la Guadeloupe, notamment à travers deux personnages d'Antillais qui travaillent à l'assistance publique, puisque Jacqueline Manicom, elle arrive assez tôt avant les grandes migrations antillaises, mais elle les connaît et à la fin des années 60 et au début des années 70, donc ce qu'elle décrit dans ce livre, c'est vraiment le moment où les Antillais et notamment les Guadeloupéens vont arriver massivement. Donc elle veut parler de ça et ça lui permet de parler de ce qui se passe en Guadeloupe et aussi à travers ça, on voit qu'elle est témoin des changements de la Guadeloupe au XXe siècle. C'est vraiment une femme qui a vu cette évolution complète. Donc quand sa mère est enceinte tous les ans pendant 20 ans, Jacqueline Manicom, elle est née en 35. Hein. Bah, Jacqueline Manicom, elle voit les conditions de naissance qui sont faites en Guadeloupe par des matrones, des matrones traditionnelles qui ont appris sur le tas, ce qu'on appelle des chasses-femmes. Et elle-même, au contraire...
C'est intéressant d'ailleurs ce mot-là. Qu'est-ce que ça raconte, on sait?
Alors je suis incapable de vous répondre.
Vous l'avez, vous, Nina?
Non. Et elle-même, par contre, Jacqueline Manicom, elle va être formée comme sage-femme dans la modernité sanitaire républicaine. Donc elle est vraiment des deux côtés. Mais elle ne perd pas le premier côté. Elle ne perd pas l'humanité,
non, elle le convoque
la proximité. Voilà. Pour elle, c'est un mélange. Et on voit dans son témoignage, et on voit beaucoup dans La Graine, sa chaleur humaine. C'est-à-dire qu'elle traite vraiment les patientes du mieux possible. Elle les encourage, elle les materne, elle leur caresse la tête. Elle veut que la naissance soit un beau moment. Et donc, elle tient les deux fils dans sa main, de ce qu'elle a appris ou de ce qu'elle a vu autrefois, et puis de sa propre formation, qui est une formation d'excellence. Jacqueline Manicom est une excellente sage-femme, c'est-à-dire que c'est une sage-femme de très grandes compétences qui assiste aux grandes transformations de la naissance en France, avec par exemple l'essor de la néonatalité qu'elle voit arriver, avec l'essor du monitoring des bébés qu'elle voit arriver. Donc elle tient vraiment les deux ensemble dans ses mains.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce chapitre, elle montre aussi la migration d'un savoir aussi et la confiscation. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a une modernisation, il y a une confiscation d'un certain savoir des femmes, détenues par des femmes, et qui va migrer plutôt vers des hommes et plutôt vers des médecins. Il y a des scènes palpitantes dans La Graine ou dans l'urgence. Les sages-femmes qui savent faire quelque chose, qui savent faire des actes, qui pourraient permettre au bébé de naître là, mieux à la mère de naître, de mettre, peuvent pas le faire parce qu'elles ont pas vraiment le droit, parce que c'est le médecin qui doit le faire, quoi.
finalement, oui, le médecin a une plus grande place, alors que c'est les sages-femmes qui vont accompagner les mères avant les naissances, dans les rendez-vous précédents, jusqu'à l'acte de naissance qui est fait par les sages-femmes, mais bim, qui est récupéré par le médecin juste après. Donc c'est vrai que c'est ce qu'elle met en avant, cette invisibilisation de tout ce corps médical, des aides-soignantes également, pas que des sages-femmes, et de toutes les petites mains de l'hôpital, qui vont ensuite être récupérées par les médecins à l'issue de ces accouchements qu'elles ont menés, finalement, dans leur intégralité, souvent.
Et est-ce que ça fait que ce livre-là, La Graine, en plus d'être ce témoignage des 16 gardes, c'est aussi un témoignage de la hiérarchie du personnel médical à ce moment-là, en maternité parisienne 1960-1970, Nina Hatt ?
Certainement.
C'est un document, je veux dire.
C'est un document et c'est une forme de critique aussi de ce qui se passait à cette époque. Un livre qui n'a pas été très très bien reçu par sa hiérarchie ensuite. Hélène a plus d'informations à ce sujet que moi. Mais c'est vrai, un livre où, même si elle modifie les noms, les prénoms, les postes, tout le monde se reconnaît assez facilement, vu que les gens qui travaillent avec Jacqueline sont là dans son quotidien et se reconnaissent. Donc forcément, ce n'est pas hyper bien reçu à l'issue de cette publication. Et c'est une des raisons qui va faire qu'elle partira petit à petit de l'hôpital pour se consacrer justement à l'éducation sexuelle.
Il y a quelque chose qui tient du document dans La Graine, Hélène Frouard, quand on veut travailler sur les archives des modes de naissance dans les années 1960-1970 en France ?
Ah oui, absolument. Et des sages-femmes que j'ai rencontrées m'ont dit qu'à l'époque, ce livre avait marqué. C'était la première fois où on avait comme ça un témoignage direct d'une maternité hospitalière. Donc c'est vraiment un témoignage très important pour une historienne. Et je pense que par ailleurs, donc on y voit à la fois l'évolution technique à l'hôpital, on y voit la façon dont les femmes sont traitées, on y voit cette hiérarchie paternaliste. Mmh. Et Jacqueline Manicom soutiendra le mouvement des sages-femmes qui va se battre pour un peu plus d'émancipation. Et elle dira d'ailleurs, j'ai déjà eu un papa, j'en ai pas besoin d'un deuxième, pour dire qu'elle en a assez d'avoir une autorité médicale au-dessus d'elle. Je rappelle que l'ordre des sages-femmes...
Qui est parfois appelé le patron, d'ailleurs.
Ouais, et l'ordre des sages-femmes, qui n'est composé à l'époque que de femmes, il n'y a pas d'hommes maïeuticiens à l'époque, a pour président un médecin. C'est pour donner une idée du climat de l'époque. Donc ça, oui, donc c'est un témoignage. Et aussi, je crois, c'est un témoignage très important de quelque chose qu'on a oublié moi-même, en le sachant, mais je ne comprenais pas vraiment. Elle témoigne d'une époque où, elle le dit bien dans un extrait, la grossesse, la plupart du temps, c'est quelque chose qui arrive et qu'on n'a pas désiré. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'impose à vous. Et je trouve que nous, en tout cas même moi, qui suis née à une époque où la contraception existait, on m'a toujours parlé de l'importance de l'avortement et j'en suis convaincue, mais je n'avais pas réalisé à ce point-là à quel point les femmes vivaient tout le temps, en permanence, en redoutant cette chose qui arrive dans leur vie et qui bouleverse leur projet, qui est une grossesse.
Et là, c'est palpable, parce que ce qu'elle réussit à faire par des vignettes, donc autant de chapitres que de gardes racontés, on est vraiment dans les chambres, dans les couloirs, elle raconte le moment où elle réussit, même si le temps est compté, à avoir un face-à-face avec la mère, plutôt après qu'elle a donné naissance, ou un peu avant que les contractions se mettent en route de manière très très forte, et à demander ce qu'il en est de cette grossesse. Mais vous l'avez désirée ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous êtes mariée ? Et on sent que ces femmes de conditions différentes, d'âges différents, t'as aussi bien des toutes jeunes femmes qui ont 17-18 ans, jusqu'à des femmes qui, en gros, n'ont pas pu échapper par ce qu'on appelait le devoir conjugal à une grossesse, énième grossesse de plus. À chaque fois, en effet, la fragilité du corps qui est comme, occupé par une grossesse non désirée, elle est palpable, quoi. C'est concret, en fait. D'où l'espèce de lien avec le combat pour l'IVG, en fait. Une fois qu'elle voit ça, c'est comme une sorte de cause à conséquence immédiate.
Et avant même son combat pour la dépénalisation de l'IVG, c'est surtout l'accès à la contraception sur lequel Jacqueline veut travailler. Le planning familial, c'est ça aussi à la base. C'est de permettre à chaque femme de maîtriser ses grossesses et de choisir si elle le veut ou non. Si elle veut être enceinte ou non, avant de passer à l'acte qui est parfois très dur et très douloureux d'une IVG. Donc j'ai l'impression que le combat de Jacqueline, vraiment au début de sa carrière, et même tout au long de sa carrière, c'est vraiment l'éducation, que les femmes comprennent leur corps, que les femmes comprennent leur sexe, comment ils fonctionnent et comment éviter peut-être les cycles, petit à petit, les pilules contraceptives, les stérilés. Mais voilà, je pense que le gros du combat de Jacqueline, c'est vraiment la contraception en premier lieu et donc récupérer le contrôle et la liberté de son corps.
Ce qu'elle appelle la maternité consciente, on écoute un nouvel extrait de La Graine où l'on voit comment elle se faufile presque pour à chaque fois glisser le plus d'informations possible justement sur la contraception.
Madame le comte est heureuse, ravie. Garçon, fille, cela n'a aucune importance. Que voilà une femme émancipée. D'une manière générale, le garçon est toujours le cadeau du ciel, tandis que la fille est simplement acceptée. Mais par ce contact, je progresse vers mon idée, mon obsession, la contraception. Et vous désirez en avoir un autre tout de suite, dès l'année prochaine? Vous aimeriez avoir beaucoup d'enfants? « Oh non !» s'écrie-t-elle en renversant son visage doux et pâle comme sa chevelure. « Pas tout de suite. Dans 2 ou 3 ans, nous verrons. J'en veux 2 et pas davantage. Je travaille, vous savez. » Décidément, elle est très lucide, cette petite Madame Lecomte. Je continue mon enquête, avide, comme toujours, de mieux situer les femmes. « Quel travail faites-vous ? Je suis caissière chez Félix Potin. Cela vous plaît ? Faut bien. Et que comptez-vous faire pour ne pas avoir un autre bébé tout de suite ? Je ne sais pas, m'avoue-t-elle en rougissant. Jusqu'à présent, c'est mon mari qui faisait attention. Je vais peut-être essayer la pilule maintenant, vous croyez que c'est bien ? Discrètement, je l'oriente vers une consultation de contraception. Je suis bien sûr consciente de ma faute. Je sais en ce moment même que je me mets dans une situation quasi délictueuse. Monsieur de Maruyrolles ne veut pas que l'on parle contraception aux femmes. J'avais envisagé, il y a quelques mois, de distribuer des feuilles sur la question et traduites en espagnol, en portugais et en arabe. Quand je lui ai soumis mon projet, il s'est écrié, épouvanté, « Mais il n'en est pas question! Vous voulez donc couler la maison? Contentez-vous, chère madame, de faire poser à la rigueur une affiche discrète dans le hall de la consultation. »
Quand on parle d'un document littéraire aussi bien que d'un document d'époque, c'est palpable, il me semble, ici, dans cet extrait de la graine, Nina Hatt, c'est-à-dire qu'on réalise, parce qu'elle est en caméra embarquée, parce qu'elle est dans une écriture depuis l'intérieur, qu'elle trouve tous les moyens pour faufiler de l'information, et si possible dans toutes les langues, à ces femmes qu'elle rencontre en consultation pré, post-accouchement, autour de l'accouchement.
En effet, elle l'a fait dans le cadre de son métier de sage-femme, mais elle l'avait fait aussi avant, dans le cadre de la création du planning familial en Guadeloupe dans les années 64. Hélène avait réussi à retrouver des femmes qui avaient été des visiteuses, comme on les appelait, des femmes qui allaient dans les campagnes pour apprendre aux femmes à connaître leur corps, à connaître leur cycle. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui lui a tenu à cœur depuis le début. Je pense que cette éducation, cette connaissance, cet apport de connaissance autour de ces sujets.
Est-ce que ça, c'est directement lié à ce que vous disiez comme étant son expérience première, à savoir avoir été la fille aînée d'une femme qui a été enceinte 20 fois et qui a perdu 10 bébés, Hélène Frouard ?
Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'elle a vraiment touché du doigt ce que ça veut dire. Mmh. C'est d'une part, elle a vu sa mère épuisée, elle a vu sa mère désespérée par des enfants morts en bas âge ou morts-nés, donc elle sait très bien ce que ça représente. Et puis, comme je l'ai dit, quand elle a 17 ans, qu'elle s'apprête à avoir le bac, qu'elle rêve d'être médecin, donc un parcours exceptionnel pour cette jeune fille guadeloupéenne, elle peut pas passer le bac parce qu'elle doit rentrer aider à la maison pour une énième grossesse. Donc elle voit vraiment à quel point ça bouleverse la vie des femmes, et elle-même a eu cette grossesse non prévue un peu plus tard. Donc pour elle, c'est central. En fait, je pense qu'on a oublié à quel point la contraception, c'était une révolution, vraiment une révolution. Et ce qui est intéressant, c'est que les féministes de l'époque pensaient pour beaucoup qu'une fois que la contraception serait vraiment rentrée dans les mœurs, parce qu'une fois qu'elle est votée, elle est votée du bout des doigts, avec beaucoup de barrières mises à son...
Date, vous rappelez la date ?
Donc elle est adoptée, l'accès à la contraception est autorisé en 67, mais met du temps. Hein, ça veut dire au départ, c'est délivré sur des carnets à souches, comme aujourd'hui la morphine par exemple.
Oui, là elle dit, je suis presque délictueuse, je sais que je suis fautive. Enfin,
donc c'est pas si facile...
Elle avance hyper cachée quand elle fait ça.
C'est pas si facile distribuer. Et pour les féministes, elles pensent vraiment toutes que, enfin beaucoup, qu'une fois que la contraception va se développer, l'avortement, il n'aura plus besoin. Ce qui n'a pas été le cas. Mmh. Mais c'est vraiment leur idée. C'est que l'avortement est un pis-aller, la libération, c'est la contraception.
Et en effet, pendant l'écriture du podcast avec Hélène l'année dernière, on s'est rendu compte que les chiffres d'avortement n'avaient pas beaucoup évolué et étaient même presque les mêmes entre les années 75 et aujourd'hui 2026.
Et c'est presque quelque chose qui se succède, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qu'elle appelle, elle, son obsession de la contraception, et puis ensuite finalement, ou concomitamment, le combat pro-IVG et la défense d'un avortement qui se fasse dans les meilleures conditions possibles, Hélène Frouard.
Alors ça se fait ensemble, elle défend l'avortement clandestin parce que même si elle n'a pas... Enfin, elle le dit elle-même, elle aime pas faire les avortements clandestins qu'elle va pratiquer, mais elle le fait tout simplement parce qu'elle voit ces femmes enceintes désespérées, prêtes à tout pour interrompre une grossesse. Et quand on dit tout, c'est ces avortements clandestins dangereux dont elle voit les effets, puisque les femmes finissent à l'hôpital mutilées et parfois mourant de ces avortements clandestins. Donc pour elle, c'est évident qu'il faut les faire.
Et ça, elle en fait des descriptions crues, poignantes, réalistes dans la graine.
C'est-à-dire je pense que si on veut se souvenir de ce que c'est, on peut lire ce livre et c'est vraiment très éclairant. C'était quoi un avortement quand c'était illégal?
C'était quoi les corps, à quoi étaient livrés les corps des femmes qui n'avaient plus aucun autre moyen pour mettre fin à une grossesse qu'elles ne désiraient pas? C'est vraiment la boucherie totale.
Elle en parle également lors du procès de Bobigny. Quand elle témoigne, elle utilise ses mots crus devant une assemblée de gens qui ne s'y attendent pas. Et comme Hélène l'a dit en début d'émission, en effet, c'est un gros silence après son intervention, parce que comme dans la graine, elle donne des détails, elle donne des détails qui sont vraiment très parlants et qu'on peut imaginer facilement et qui pour elle, ne devraient plus arriver dans une société comme la nôtre et donc qu'on doit pouvoir éviter, donc encadrer et dépénaliser les avortements.
Et ce qui permet aussi, et c'est pour ça que c'est un document essentiel, ça permet de sortir du dogmatisme, c'est-à-dire que être contre, ou ça permet aussi de dire, mais en fait, on se parle de ça, je suis désolée, je vais utiliser des mots aussi très durs à utiliser, mais on se parle de têtes de fœtus qui sont coincées derrière des reins, parce qu'ils ont d'abord passé dans des systèmes de reproduction des femmes en abîmant tout sur leur passage. On se parle de choses atroces, et donc mettre fin à ces avortements clandestins, permettre que les femmes contrôlent leur corps, leur naissance, etc., c'est mettre fin à ce genre d'horreur, quoi. Et donc, il me semble qu'elle, en ouvrant le champ littéraire même à des images aussi difficiles à supporter que ça, elle fait vraiment avancer les prises de conscience, Hélène Frouard.
Absolument. Alors, elle publie ce livre quelques mois avant l'adoption de la loi Veil. Et puis, Jacqueline Manicom, c'est pas une théoricienne, c'est quelqu'un qui parle de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle a vécu, d'où la force de ce qu'elle écrit, parce qu'on n'est pas dans un discours, comme vous dites, c'est pas un discours idéologique, c'est vraiment un discours concret, c'est ce qu'elle voit. Et alors, non seulement elle décrit ses avortements, mais aussi elle dénonce le fait que les hommes se permettent de décider s'il faut les faire ou pas, alors que, comme elle dit, il y a pas mal de géniteurs, elle le dit comme ça, qui font des enfants, qui s'en vont une fois que la femme est enceinte, et elle se retrouve à voir ces femmes désespérées chez elle. Donc elle insiste beaucoup aussi sur ce côté-là.
Oui, et puis je crois qu'à un moment donné, dans la graine, elle s'imagine courir comme ça, après tous les hommes qui sont passés par là, ou bien en prétendant faire attention, puisqu'on entendait dans le passage lié « Mon mari fait attention » ou alors tout simplement en s'en allant et en laissant la femme se débrouiller toute seule. On va écouter la voix de notre auditrice Shelley. Elle a lu « La graine » et c'est peut-être un aspect encore différent qui a attiré son attention.
Bonjour le Book Club. J'ai lu « La graine » de Jacqueline Manicom et ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre, c'est la place du corps. Le corps des femmes, leur douleur, la maternité, tout ce qui se vit dans la chair. Il y a une autre vérité qui m'a profondément touchée, c'est le racisme que subissaient les femmes antillaises dans les hôpitaux. Étant moi-même d'origine guadeloupéenne, je le comprends et je ressens vraiment cette discrimination vécue par ces femmes. Pour moi, à travers son histoire, Jacqueline Manicom racontait aussi celle, finalement, de beaucoup d'autres femmes. Du coup, voici ma question à Hélène Frouard et Nina Hatt. Est-ce que la graine était déjà pensée par Jacqueline Manicom comme un geste politique, presque militant, ou est-ce que c'est quelque chose que nous percevons davantage aujourd'hui avec le recul ? Voilà, merci pour votre réponse.
Merci beaucoup, Shelley, pour cette lecture qui nous permet d'aborder un aspect très important de la graine. Donc, j'ai aussi lu ce livre-là comme étant une façon de s'emparer de ce que c'est que l'intersectionnalité. Je pense que si c'est un peu abstrait pour certaines personnes, c'est vraiment un texte qui permet de le comprendre, il me semble. Hélène Frouard, on va répondre aux différentes étapes de la question de Shelley. Comment Jacqueline Manicom pense ce texte-là? Est-ce que la dimension antiraciste est présente comme un geste militant dans cette écriture?
Alors, l'écriture de Jacqueline Manicom est une écriture militante. Donc, j'ai pas de doute que quand elle écrit ce qu'elle voit, c'est-à-dire notamment le racisme que subissent les Antillais à l'hôpital, mais aussi, elle raconte pas que ça, elle raconte aussi le racisme que subissent les femmes arabes qui viennent accoucher, absolument, puisque l'hôpital est alors encore beaucoup utilisé par les femmes des classes populaires. Elle dénonce aussi l'antisémitisme. Donc, elle dénonce le racisme en général. Ouais. Il n'y a pas de doute qu'elle le fait volontairement, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette dimension-là du livre n'est pas du tout perçue à l'époque. Ce livre a été considéré comme un livre féministe, un livre pour dénoncer ce qui se passe autour de la santé des femmes, de la reproduction des femmes, mais l'aspect de dénonciation du racisme est passé quasi inaperçu, pas complètement, mais quasi. Ça, pour moi, c'est très impressionnant, c'est très intéressant à voir.
Ça rend très concret, c'est-à-dire que avec ces vignettes de garde, certaines fois, ça lui permet de s'approcher très près de certaines femmes en donnant leur prénom, quand bien même c'est modifié, mais leur prénom, éventuellement le métier qu'elles font, leur histoire matrimoniale ou pas, le nombre d'enfants qu'elles ont, les conditions d'hébergement dans lesquelles elles sont. C'est aussi une sorte de peinture de la France faite par l'immigration des années 60-70, de ces maternités parisiennes qui accueillent le monde entier. Elle dit, c'est hyper avant-gardiste, la nécessité de parler d'autres langues. À un moment donné, elle dit qu'elle s'approche d'une femme en commençant à parler arabe et elle se dit, bah, j'ai pas de quoi poursuivre. Il y a vraiment quelque chose de très humaniste, de très politique de ce point de vue-là.
Oui, et puis... Donc Jacqueline Manicom elle-même, elle était guadeloupéenne, c'était une femme considérée comme une femme noire à Paris. Elle avait subi le racisme, donc elle y était extrêmement sensible. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu une sensibilité particulière pour les femmes des classes populaires. Au sein du milieu féministe, vraiment, elle considérait qu'il fallait un combat vraiment particulier pour ces femmes qui n'avaient pas les moyens, souvent, de sortir de leur situation. C'est-à-dire, par exemple, d'avorter avec l'aide d'un médecin qui faisait ça illégalement pour très cher. Ben, c'était ces femmes des classes populaires qui finissaient sur un coin de cuisine. C'était ces femmes populaires qui se retrouvaient à pas savoir comment nourrir leurs enfants. Donc, pour elles, il y a une sensibilité particulière à la fois... Enfin, aux femmes dominées, on pourrait dire.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je parle d'intersectionnalité, c'est que en prenant des cas très concrets, je sais pas, une femme qui accouche, je crois, de son troisième enfant en 3 ans, qui vit peut-être dans un hôtel social, c'est-à-dire que on voit en fait le croisement de la domination de classe, de la domination de genre, de la domination de race. Enfin, ce sont des cas concrets en fait pour penser ça dans un féminisme. Vous le rappelez d'ailleurs dans les échanges que vous avez dans le podcast toutes les deux. On mettra, je le rappelle, le lien sur la page du Book Club, que le mouvement féministe de l'époque est pas toujours en mesure de penser ces intersections à ce moment-là.
Oui, parce que le mouvement féministe, évidemment, est traversé par des lignes de fracture, etc. Mais enfin, il est quand même porté par un féminisme universaliste. On va défendre la femme, en général. Et puis, il y a dedans un mouvement, notamment Jacqueline Manicom, mais aussi Gisèle Halimi, qui disent, ben non, la femme, c'est pas toutes les femmes. C'est pas pareil d'être une femme immigrée pauvre et d'être une femme bourgeoise. C'est pas pareil, c'est pas la même expérience. Et Jacqueline Manicom le sait, elle l'a vécu dans sa propre chair. Et évidemment, elle n'utilise pas le terme intersectionnalité, puisqu'il va être fondé, forgé un peu plus tard, à la fin des années 80, sauf erreur de ma part. Mais en fait, c'est de l'intersectionnalité avant le mot.
Et c'est très concret, encore une fois, par l'écriture, c'est rendu très concret par l'écriture de Jacqueline Manicom dans La Grême. On écoute un autre extrait, peut-être pour continuer de déplier tous les aspects que contient ce texte. Et là, une critique de ce qui est aujourd'hui très, très, très contemporain, très à l'œuvre, c'est le rendement médical.
Travail à la chaîne durant cette garde. 11 accouchements. Je courais d'une femme à l'autre en salle de travail, au dortoir, à l'admission. L'interne et la sage-femme anesthésiste n'intervenant qu'en cas de forceps ou de césarienne. J'étais transformé en doigt examinateur et en oreille pour bruit du cœur. Je ne pouvais être durant cette garde trop chargée qu'un appareil à extraire des bébés des utérus en folie. Et la salle de travail n'était rien d'autre qu'une vallée de gémissements, de désespoir, de résignation. Je ne me souviens même plus du visage des femmes que j'ai accouchées. Je n'ai pu offrir à aucune d'elles ce que chacune attendait de moi. Parce que j'étais seul pour les accueillir, je suis passé à côté de leur angoisse, de leur détresse, de leur solitude, de leur bonheur aussi. Ce matin, j'ai présenté comme d'habitude le grand registre à Monsieur de Marouet-Rolls. Il m'a félicité d'avoir si bien travaillé. 11 accouchements normaux, quel bon rendement, en effet. Et fourbu et la tête pleine de vulves expulsantes, j'ai fait un tour ensuite de couche. Mais au bout d'une telle garde, il m'était impossible de me pencher sur les problèmes de contraception de ces femmes. La prochaine fois, oui. La prochaine fois, nous verrons tout cela. Mais maintenant, il faut dormir.
Il y a quelque chose dans La Graine où on voit l'épuisement à l'œuvre, On voit les conditions éreintantes de l'exercice du métier de sage-femme décrites par Jacqueline Manicom. On voit aussi la différence entre elle qui a l'impression de ne pas avoir bien fait son travail, d'avoir bossé à la chaîne, de ne pas avoir accompagné les femmes, et d'un médecin appelé le patron qui va féliciter au contraire pour le rendement fou. Donc l'idée d'un ultralibéralisme qui pénètre toutes les couches du soin. Peut-être pour parler de cette peinture-là, Nina Hatt, et dire comment est-ce que la graine parvient à faire ça, et aussi faire le lien avec l'épuisement militant dont dira Jacqueline Manicom que ça l'a tué, et peut-être même concrètement ça l'aurait tué. Qu'est-ce qu'on lit dans ces pages-là qui nous permet d'éclairer son épuisement et peut-être même son suicide ?
Effectivement, c'est un rythme qui est très compliqué pour Jacqueline. Elle fait des gardes souvent de 24 heures non-stop, après quelques jours de repos, avant de réenchaîner sur une garde de 24 heures. Mais entre-temps, elle a des enfants, donc il faut qu'elle s'occupe. Elle a ma mère et mon oncle à s'occuper. Il faut faire les courses, il faut faire à manger, il faut faire les devoirs, il faut aller les chercher parfois à l'école ou les emmener au sport, au judo ou que sais-je. Donc en plus de son rôle de sage-femme, elle a tout ce rôle de mère, de femme, dont elle ne peut pas se séparer. Mon grand-père est bien dans son époque, il n'est pas très présent. Il a aussi sa petite carrière à côté, il est prof de philo agrégé. Il écrit des bouquins, il fait des conférences, il n'est pas toujours là non plus. Donc c'est vrai qu'en plus de tout son rôle hyper éreintant et très important de sage-femme, où elle doit s'occuper d'êtres humains qui sont en train d'accoucher, qui sont en train de naître, elle a aussi ses deux petits humains à la maison dont il faut qu'elle s'occupe et dont elle arrive à très bien s'occuper. Mais ça reste quand même quelque chose, voilà, d'éreintant qui effectivement a dû l'épuiser comme n'importe quelle sage-femme. Et je pense forcément à une amie qui est sage-femme aujourd'hui à l'hôpital de Rochefort et qui, elle, est aussi épuisée alors qu'elle n'a pas d'enfant. Je sais qu'elle en veut. Voilà,
c'est et elle n'est sujet. Pas la seule.
Et elle n'est pas la seule. Et c'est quand même quelque chose qui existe encore dans le milieu hospitalier, qui n'a pas beaucoup changé. J'imagine que les volontés de rendement ne sont pas les mêmes. Mais l'hôpital public est toujours épuisé 50 ans plus tard et a toujours ses rythmes un peu effrénés. Est-ce que ça a beaucoup changé? Je ne suis pas sûre.
Et d'autant que ce qui est important, et je voudrais vraiment qu'on écoute cette dernière archive, vous avez dit tout à l'heure qu'elle vibrait d'un espoir profond de faire de ce moment de la naissance un moment émancipé et joyeux, et que c'est évidemment à l'encontre de pouvoir en une seule nuit accompagner 10 femmes en même temps dans ce moment-là très précieux. On va l'écouter dans une conversation en 1974 avec Frédéric Le Boyer, ce que j'ai découvert, je me suis souvenue de ce livre que moi j'aime tellement, qui est tellement important pour moi, qui s'appelle « Pour une naissance sans violence », et ça paraît la même année. Et je trouve que c'est très beau aussi comment dans la graine, il y a cet espoir de faire autre chose de ce moment-là pour les femmes et les tout-petits qui viennent au monde.
Une contraction utérine n'est effectivement pas comparable à aucune contraction physiologique normale dans le corps habituellement. Tous les matins et tous les jours, notre estomac se contracte pour digérer, nous ne le sentons pas. Et il arrive exceptionnellement dans nos vies de femmes que notre utérus se contracte. Il se contracte avec un bébé de 3,5 kg, 2 litres de liquide, un placenta qui pèse dans les 600 grammes, et c'est tout de même un événement. Et une contraction utérine n'est pas une chose banale, ni une chose insensible. Pour moi, personnellement, je la compare à une grande vague qui arrive dans un océan tranquille. Et cette vague, il faut faire face à cette vague. C'est ce que je dis aux femmes.
Ah, je crois que si vous permettez, je dirais que... Non, je ne dirais pas qu'il faut faire face à cette vague.
Il faut monter avec elle.
Ah voilà, il faut couler avec elle, il faut monter avec elle, il faut la suivre. Or, la peur, c'est le refus, c'est le blocage. Ouais. Et devant l'intensité de la vague, la femme a tendance à se bloquer et à refuser. À partir du moment où, au contraire, elle accepte, à partir du moment où elle coule avec elle, elle court avec elle, la douleur disparaît.
Ah, alors là, je suis désolée, monsieur.
Non, je vous écoute.
Je suis désolée de vous, non pas de vous contredire, mais au moins d'apporter une nuance à ça.
Oui.
Je pense que vous pouvez dire, vous, homme, à partir du moment où elle monte avec la vague, ou qu'elle se met en dessous, enfin qu'elle a une attitude vis-à-vis de cette vague, qui est une attitude d'entente, disons, la douleur disparaît. Ça, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne pense pas, et pourtant je pratique, et j'aide les femmes, même celles qui n'ont pas été préparées, j'essaie d'elles, quand elles arrivent, de leur apprendre à respirer et de les aider à accueillir cette fameuse vague utérine. Oui, mais cette vague reste quand même quelque chose d'extraordinairement intense.
Je voulais qu'on termine quand même avec cette voix-là et en dialogue avec Frédéric Le Boyer pour dire aussi combien on sent dans la graine poindre cette façon de revisiter des possibles naissances sans peur, sans douleur. Bon, Jacqueline Manicom dit, attendez, tranquille quand même, hein, ça reste très intense, mais sans violence, pour reprendre le texte de Frédéric Le Boyer. C'est important, vous parliez aussi d'une modification à ce moment-là, et c'est encore des enjeux très contemporains, cette idée-là de comment on fait pour accompagner les femmes une par une dans ce moment-là si important.
Elle est très pionnière, ouais. Jacqueline Manicom, c'est incroyable. Hein. Dès le début, quand elle apprend que les méthodes d'accouchement sans douleur, bon, qui enlèvent pas la douleur, mais existent, elle a voulu s'y former. Ouais. Donc, dès qu'elle est sortie de son école de sage-femme, elle a tout de suite voulu expliquer aux femmes pour qu'elles n'aient pas peur, pour qu'elles aient moins mal, pour qu'elles soient moins angoissées.
Elle parle d'épouser la vague de la contraction.
Exactement. C'est quelque chose qui est très valable, explique, hein. Elle dit aux femmes, non pas des termes techniques, mais des termes qu'elles peuvent comprendre pour les empêcher d'être angoissées, les accompagner. Et puis, cette volonté que les bébés naissent dans des conditions détendue, joyeuse, elle proposait qu'on mette moins de lumière, elle disait on pourrait mettre de la musique qui plairait aux femmes, donc elle est d'une avant-garde extraordinaire, et en plus là, elle le dit face à un médecin sans hésiter, ce qui se faisait pas tant que ça à l'époque, elle garde sa libre parole, voilà, donc je pense que c'est une femme d'une très grande modernité.
Je rêve de pouvoir offrir aux futures mères des lieux idylliques, et pourquoi ne mettrait-on pas des rideaux fleuris aux fenêtres? Je voudrais aussi que dans les box d'accouchement, il y ait des fleurs, des parfums agréables. Et pourquoi pas de la musique? Bach, Vivaldi, Manuel de Falla, ou de la musique arabe, du folklore portugais, la biguine créole, musique slave, à la demande. Ce serait selon l'origine et le tempérament de la future mère.
On va prendre une autre pause musicale. Cette fois-ci, vous avez choisi une sonate pour violon de Bach, avec peut-être une intention particulière. Non, simplement parce que c'est beau.
Ah, c'est beau, et puis, je ne sais pas, enfin, ça jaillit un peu comme l'amour qui fait que les enfants viennent au monde. Parce que je voudrais que tous les enfants viennent au monde comme ça.
Si on mesure ce que c'est en 1974 de se demander si on pourrait mettre du Bach, du Vivaldi, et pourquoi pas de la musique arabe, du folklore slave pour que ce moment de la naissance soit un beau moment dans la joie, dit votre grand-mère Jacqueline Manicom. Vous parliez de votre frère, de votre oncle, de votre mère. Ça crée quoi dans la famille le fait qu'elle revienne avec sa voix, ses mots, ses textes, Nina Hatt?
Il y a mon frère, en effet, Jonas, il y a mon oncle Frédéric, ma mère Gaëlle, mais il y a aussi tout le reste de la famille Manicom. Et on est très nombreux, on est un peu en Guadeloupe, on est un peu à Paris, on est un peu en France, on est un peu en Irlande même. Et c'est vrai que ça a recréé vraiment un moment un peu de retrouvailles avec la famille. C'est des très bons prétextes pour échanger, pour se rencontrer. On ne se connaît pas tous, parce qu'on est vraiment très nombreux. Et c'est vrai que cette opportunité, l'opportunité qu'Hélène a créée, en retombant sur cette histoire, parce que tout part du travail d'Hélène quand même, de cette recherche. Et oui, ça a recréé vraiment des vrais liens familiaux. On est très contents de ça.
Et puis c'est une sacrée voix à porter. C'est beau de porter cette voix-là quand même.
Oui, on est très contents.
On a parlé de La Graine avec vous. Merci beaucoup Nina Hatt, Jacqueline Manicom. C'est donc paru aux éditions Gallimard dans la collection L'Imaginaire. La préface de Chloé Corman et une préface dessinée d'Ina Hunt. Et de votre livre Jacqueline Manicom, La Révoltée, paru aux éditions de l'Atelier, Hélène Frouard. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Et si on veut continuer de vous entendre converser, on peut donc écouter ce super podcast au son. Mineta Djawara, à la réalisation, Vivien Demeyer, un grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement à Cyril Marchand. Aujourd'hui, rendez-vous sur Instagram pour continuer à converser autour de ce texte.